Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes le 3 avril 2011, le texte apparaît sur le site Gay Viking. Bonjour le forum, j'ai 43 ans et je vis à Paris. Le 30 avril dernier, étant en déplacement professionnel à Rome, j'ai rencontré Place Saint-Pierre au Vatican un jeune Portugais de 28 ans qui était là-bas pour assister à la béatification de Jean-Paul II. À Rome, pendant 2 jours, nous avons passé des moments merveilleux et extrêmement tendres tous les deux. Certes, il m'avait dit d'emblée qu'il envisageait de devenir prêtre, mais nous n'en avons pas parlé plus que ça. Il travaillait près de Paris, nous nous sommes revus plein de fois en mai et juin à Paris. Nous sommes allés notamment visiter la basilique de Lisieux et le Mont Saint-Michel. Nous étions très fusionnels et en dehors des moments où nous faisions l'amour, il y avait une tendresse constante entre nous. On s'embrassait, on se tenait la main pendant des heures. Et fin juin, patatras. Il m'annonce qu'il ressent trop fortement l'appel de Dieu et qu'il doit rentrer au Portugal pour suivre une préformation religieuse pendant l'été, puis le séminaire à Lisbonne. À l'aéroport d'Orly, il a pleuré et m'a embrassé très longtemps. Arrivé au Portugal, il m'a envoyé plein de SMS pour me dire qu'il ne m'oublierait jamais et qu'il m'adorait. Je suis complètement désemparée et détruite. Depuis son départ, il m'écrit en me disant que je lui manque et qu'il m'adore. Je comprends qu'il ressente cette vocation religieuse et je sais qu'il souffre de la situation. Mais moi, je souffre également et je ne sais vraiment pas comment faire face. Si quelqu'un a une idée ou une suggestion ou a vécu une situation similaire, merci de me conseiller. Vos commentaires seront plus que bienvenus. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, 2 autres histoires qui pourraient répondre à cet internaute. Des histoires où la religion, les ordres et l'homosexualité se croisent et s'entrecroisent. Elles sont racontées par Thibaut Cavaillès, tout de suite sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Jacques Fressigne. J'ai actuellement 83 ans, je suis prêtre. Bon, je suis issu d'une famille qui était la bonne bourgeoisie. Je suis né en 32, donc à cette époque-là, mon père était Action française, antisémite, il a beaucoup évolué, heureusement, par la suite. Ma mère venait d'un endroit de la région de Troyes, très janséniste. Elle était très marquée par cela. Et j'ai vécu toute une enfance bourgeoise, pieuse, mais très marquée par le Concile de Trente et marquée par l'Action française, marquée par toutes ces valeurs-là. Des valeurs de conservatisme, de respect du chef, d'obéissance, etc. Et après cela, à 18 ans, je suis rentré au séminaire. Là, j'ai donc pris l'engagement d'être célibataire. J'avais 22 ans, 23 ans, et là, un séminariste qui était qui avait fait une formation de médecine nous a fait une conférence sur l'homosexualité. Et alors, dans cette conférence, on nous a suggéré de lire Jean-Paul, de M. Guersan. C'est une histoire tout à fait, enfin un livre tout à fait étonnant, qui est composé de 2 parties. La première partie, c'est l'analyse clinique de la vie de Jean-Paul, jeune gay à Paris, qui s'éclate dans sa sexualité. Et des descriptions très précises, pas graveleuses, mais montrant sa vie, ses désirs, la façon de, les rencontres qu'il faisait, les lieux où il rencontrait du monde, etc. Et ça nous a permis de voir quelque chose qui existait sous un jour différent, la chape de plomb de l'Église. Et puis le brave écrivain qui doit être un père jésuite, mais je suis pas sûr, dans la deuxième partie, va faire mourir Jean-Paul d'une syphilis. Autrement dit, le livre, d'une part, expose le fait homosexuel tel qu'on le percevait à ce moment-là, et d'autre part, exprime toute la répression de l'Église en disant « il n'y a pas d'amour heureuse et les transgresseurs sont faits pour être punis ». Enfin, je caricature à peine, mais c'était la philosophie de ce livre. Et c'est là que j'ai pris conscience de mon homosexualité. Je me suis reconnu. Parce que j'étais très sensible aux garçons, leur beauté. Je n'avais jamais eu d'aventure, quoi que ce soit. Mais des tas de contradictions qui étaient en moi sont apparues clairement. Hein ? Il faut se rappeler que l'homosexualité, c'était le vice dont on ne parle pas. Et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de mots pour en parler. J'ai culpabilisé énormément parce que j'étais pas dans la norme, qu'il fallait absolument en sortir. Besoin de se confesser, de dire que j'étais en rupture complète avec les engagements que j'avais pris, etc. Enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, quoi. C'est une période de trouble. C'était une anomalie, enfin, une abomination des tas de mots de cet ordre-là. Et je voulais pas l'être. Et en même temps, j'avais des pulsions qui étaient grandes, et chaque fois que je venais à Paris, je trouvais l'occasion de rencontrer quelqu'un. J'étais aumônier diocésain d'Action catholique ouvrière, et j'avais donc la possibilité de voyager pas mal pour aller voir les équipes à droite et à gauche. Et c'est à l'occasion de ces voyages, ou de mes voyages à Paris, que j'avais des rencontres furtive et culpabilisée. Culpabilité très grande de ne pas être fidèle à un engagement que j'avais pris. Dominé par ce désir de... Il fallait que j'essaye, que je voie. Hein ? C'est pas simple de faire l'apprentissage humain. Surtout comment dire ça ? J'ai toujours été coupé de beaucoup de choses. Moi, j'ai même pas appris à danser. J'étais extrêmement solitaire. Et quand je suis rentré au séminaire, je me suis cantonné dans des activités religieuses. C'est un enfermement très très étroit qui m'a été imposé par ma famille, par l'Église, par toute espèce de choses.
Vous vous confiessez auprès d'un prêtre que vous connaissiez ?
Alors, j'ai plusieurs étapes. Au départ, c'était auprès de gens inconnus. J'allais être le plus loin possible pour ça. Et alors, avec pour toute la parole assez hypocrite de l'Église, en disant « recommencez plus », bon, c'est facile à dire ça, mais je disais que je ne recommencerai plus, mais je savais que c'était pas possible, quoi. Et puis, finalement, j'ai pu en parler avec l'un ou l'autre, et j'ai trouvé une écoute. Et alors là, on m'a dit, il faut recourir à un psy pour savoir ce qu'il en est, et on m'a donné une année sabbatique. J'avais déjà 10 ans de ministère. Hein, j'étais ordonné en 57. Et donc, je suis venu à Paris pour cela, et j'ai dit, je fais une pause. De ce célibat, je repars à zéro, je reconsidère les choses à partir de la réalité que je vis. Dans le même temps, j'ai trouvé un logement au-dessus de chez ma sœur, j'ai trouvé un travail, et puis j'ai trouvé un ami qui s'appelle Christian et qui est là aujourd'hui. Donc mon analyse a duré pendant 3 ans et demi. La conclusion avait été que, en fait, j'avais pas choisi mon homosexualité, que je ne changerais pas, que je vivais une relation avec Christian qui m'épanouissait, que je rentrais à l'association Arcadie, une association homosexuelle fondée par un ex-clerc, et que ensuite j'ai rejoint David et Jonathan qui étaient issus de l'association Arcadie. Alors évidemment, un jour par exemple, je suis allé voir mon évêque qui s'appelait Monseigneur Bougon Et je lui ai dit, voilà, je retourne à Paris, je suis homosexuel. Bon. Et la seule question qui m'est posée, c'est, est-ce que ça se sait ? Ça se savait pas. Faut que la galère. Hein ? À partir du moment où je me suis rendu compte que la culpabilité n'était pas liée à une parole de Dieu, à la Bible, à des choses de cet ordre-là, et que j'ai entretenu avec Christian une relation d'amour, une relation autre que une relation simplement charnelle, encore qu'elle était très charnelle, il n'y avait plus vraiment de problème. Et Christian est venu dans les équipes de prêtres ouvriers célébrer avec nous. Alors ça s'est bien passé pendant presque tout le temps, sauf lorsque on a décidé de construire une maison et de s'installer à Orsay. Là, l'équipe de prêtres ouvriers dans laquelle j'étais a eu une réaction tout à fait étonnante, enfin surtout l'un d'entre eux, qui avait un problème au fond de son slip, mais qui n'était pas capable de le voir, elle m'a dit « tu respectes pas la discipline de l'Église, ou bien tu demandes ta réduction à l'état laïque ». Et tu continues à célébrer avec nous, ou bien tu t'en vas. Et je suis parti. Alors j'ai pu voir les autres et discuter avec eux et leur dire que je trouvais ça un peu gros. Et comme de toute façon j'étais ailleurs, je me suis rattaché à une autre équipe de prêtres ouvriers.
Quelle est votre activité aujourd'hui ?
De retraité. C'est-à-dire que je continue un certain nombre d'associations. Je suis apiculteur, j'ai travaillé pendant longtemps au syndicat des apiculteurs du Val d'Essonne, des choses de cet ordre-là. Je lis la Bible tous les matins et je célèbre quand une occasion de célébrer quelque chose d'important m'est donnée. En fait, lorsque j'analyse les choses maintenant, je m'aperçois que la doctrine dans laquelle j'avais été élevé avait un aspect totalement inhumain. Et que c'était la négation profonde de mes sentiments. Et tout le cheminement que j'ai pu faire ensuite, ça a été de m'humaniser. Et accepter mon désir, reconnaître que j'étais homosexuel, que je changerais pas, que l'important c'était d'être homme avant d'être le clerc. Et c'est cet humanisme qui me semble important et que l'Église nous a privé, enfin l'Église catholique romaine nous en a privé pendant très très longtemps, au nom de considérations mystiques qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'humanité du Christ. Et je pense que les choses évolueront. On va voir.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, je vais vous sortir tout ça. Vous avez ici. Oula, vous voyez, un petit peu enseveli quand même. Oula, c'est parce qu'il y a un mur qui est tombé. Voilà. C'est un peu, on se croirait, dans une sacristie ici. Il y a du plâtre qui nous tombe sur la tête. Et voilà. Voilà, Coco. Coco, elle me suit partout. Hein. Elle est vraiment très, très proche. Oui. Hop là, voilà. Bon, j'ai pas tellement de photos de moi enfant parce que bon, on n'en faisait pas tellement. Et puis voilà, donc là on me voit enfant avec la famille. Donc c'est les années 80, hein, c'est assez drôle. C'est des photos simples d'une vie simple à la campagne. Hein, on vivait à la campagne, à Méholt, près d'Amiens, bon, après ma communion. Ah voilà. Et là on commence à voir mes années un petit peu. Donc c'était à Strasbourg. Et les années où je commençais à vivre vraiment mon homosexualité en fait, puisque à Amiens j'ai pas vraiment pu en vivre, c'était assez caché à la campagne, on ne disait pas trop ces choses-là. Donc je commence vraiment à m'éclater, je sors dans le milieu homo, je me colore les cheveux, et alors que je travaille dans un restaurant un soir, ma patronne Anne me demande de faire un show pour un anniversaire. Voilà, donc là vous me voyez en tenue de oui léopard, vraiment c'est assez sexy quoi. Et Et puis, de ce premier striptease qu'on m'avait demandé de faire comme ça pour un anniversaire, finalement, je me suis découvert un petit peu cette passion-là. Et puis, la patronne avait voulu renouveler ça. Et donc, en fait, après est né un personnage qui est devenu Enzo Lorenz. Et ça s'appelait Coyote Boy and Girl Show. Vous voyez, on me voit nu, là, sur une table. Là, je sais pas, il s'est écrit à partir de 22h au coin du feu à Strasbourg, exactement. 3 novembre 2001, donc vous voyez, c'était en 2001. Je suis né en 81, j'avais 20 ans, vous voyez. Voilà. Le striptease, c'est quelque chose qui me... qui me rendait la folie est assez intéressante. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que c'était un milieu de solitude, finalement, parce que oui, c'est chouette quand tout le monde hurle quand vous entrez dans une salle et tout, mais pour moi c'était pas la vie. Je veux pas de ça, moi je veux être un homme, je veux une vie d'homme, c'est une vie d'engagé, c'est quelqu'un qui se pose. Je voulais sortir du striptease, mais je voulais aussi sortir de l'homosexualité. C'était pas quelque chose qui m'épanouissait, le fait d'être homosexuel. Et c'est là, en effet, où j'ai commencé à ressentir très très fortement un appel que j'avais ressenti enfant. Et en effet, quand j'ai commencé à chercher ce sens à ma vie, c'est en Dieu que je l'ai trouvé. C'est différent de se donner nu sur une scène, de se donner dans une sexualité homosexuelle, et puis d'un coup de dire, eh ben maintenant je vais me donner, mais je vais vraiment me donner au service des plus pauvres, au service de... je voyais des gens perdus, j'avais envie d'être prêtre. Donc je suis rentré au séminaire. Voilà. Ça commence ici. Donc là, sur ces quelques photos, vous voyez ma première journée à Nancy. Quand je faisais mon année de propédeutique, donc on était dans une maison, c'était à Nancy, ça s'appelait la maison Saint-Jean-Baptiste, donc je faisais mon année ici, donc j'étais entouré de quelques amis prêtres, et puis voilà, on pousse la porte de cette maison, et puis je vais y être pratiquement enfermé pendant une année. Très très vite, j'ai fait part de mon homosexualité. Donc j'ai dit au directeur, qui était un prêtre, voilà, j'ai cette tendance en moi, elle est là. Et j'ai eu ce père-là, Guy Lescane, justement, a été très très humain, il ne m'a pas jugé, il m'a dit, bah, écoute, voilà, tu le dis très bien, tu veux être célibataire, tout ça, tu dis que tu ne veux plus aller dans ce sens, donc, ben oui, moi je te vois apte à rentrer au séminaire. L'Église m'a trouvé apte à rentrer au grand séminaire. Je suis rentré au grand séminaire. Et au grand séminaire, c'était impressionnant. L'homosexualité, elle était très visible. Vous aviez des évêques qui étaient des folles, finies. Et très vite, vous savez voir qui est homo là-dedans. Ça, c'est visible, ça se voit, notamment dans les professeurs en col romain, en soutane, qui arrivent dans les grands salons du séminaire, tout ça. Ils vous matent. Et il se passe des choses. Il se passe des regards. Ça se sent. Après, on boit un petit café, comme par hasard. Vous voyez bien que cet évêque qui vous a regardé pendant tout le repas vient prendre son petit café avec vous, cherche à parler avec vous, tout ça. Donc finalement... Vous voyez, Giovanni, il sort pas de l'homosexualité, quoi. Il est rentré là-dedans pour un petit peu oublier tout ça. Et il se rend compte qu'il est entouré de PD. C'est vraiment très, très dur à supporter. Puis en même temps, c'est assez excitant. On sent qu'il y a des regards, on sent que ça se drague. Et surtout, il y a de l'acte. On couchait avec des évêques, on couchait avec des séminaristes, on couchait avec des prêtres qui faisaient partie des pères du conseil. On allait à Rome. Alors là, Rome, écoutez, c'était encore plus grand que le Marais. Hein, je veux dire, c'est assez incroyable les réceptions entre prêtres. Voilà, après la messe, on se retrouve avec des prêtres, on va au restaurant où on est dans une salle de réception et il y a 40, 50 prêtres. Vous savez, c'est là qu'on voit les choses. Un jour, c'était juste à côté de la basilique Saint-Pierre. Nous étions donc chez des sœurs, puisque c'est les sœurs qui nous accueillaient. Et donc, on était dans une salle de réception. Et puis, il y avait un très jeune monseigneur qui travaillait dans un service du Saint-Siège. Et moi, je l'avais trouvé vraiment très, très beau, particulièrement beau. Lui, certainement aussi, m'avait trouvé très, très beau. Et puis, je voyais bien qu'il me regardait, mais ça restait très, très discret, parce qu'on était entouré de plein de monde. Et puis à un moment, je me suis levé pour aller au WC, mais je n'attendais rien. Je ne suis, vous savez, des fois entre homos, on se voit et puis allez hop, on s'attire dans les toilettes. Bon, là, c'était pas du tout le cas. Je suis allé au WC pour aller au WC. Et ce monseigneur m'a rejoint. Et ça a été très très rapide, ça a été assez surprenant. Et comme je vous le disais, c'est fou parce qu'on est dans l'interdit. Vous savez, ça faisait partie de mon quotidien, hein, la sexualité. Vous savez, le soir, entre séminaristes, nous aimions bien, par exemple, prendre le thé ensemble. Tel séminariste vous invitait et se disait, vous disait, tiens, est-ce que ça te dit ce soir de venir prendre une petite tisane ou un whisky ? Il y a des séminaristes qui aimaient bien le cigare aussi, fumer un bon cigare. Ben, bien souvent, quand un séminariste vous invitait pour boire le whisky, c'était parce qu'il avait envie de coucher avec vous. J'ai décidé de quitter le séminaire, mais j'ai pas quitté le séminaire pour, en disant je quitte et je retourne dans le monde, puisque je suis rentré dans un monastère. Je me suis dit que les choses allaient être certainement plus saines. Donc, on vit en communauté, avec des garçons encore certainement de tendance homosexuelle. Je dis pas qu'il y en avait plus du jour au lendemain, mais en tout cas, les relations sexuelles n'existent plus. Parce que la condition de vie n'est plus la même, et que moine, ça vient d'un mot grec qui est monos, et qui veut dire seul. On ne se fréquente pas, on ne se parle pas, on a une vie de silence. Et vous voyez, tout ça m'a... sortir un petit peu de toute cette hypocrisie que j'avais vécue au séminaire, toutes ces coucheries, ces histoires de cul, tout ça, là, il n'y en avait plus. Au monastère, finalement, j'ai été beaucoup plus heureux. Mais alors là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai parlé au prieur de tout ce que je suis en train de vous raconter. Et lui, au lieu de m'écouter, et au lieu de dire bah, « écoute l'essentiel et que tu es tiré un trait sur tout ça et que tu veux devenir un saint et que je crois en toi et tout », il n'a fait que de me juger. Et puis, à l'époque, je travaillais avec des enfants. Et à partir du moment où je lui ai dit cette tendance homosexuelle que j'avais, il m'a retiré toute proximité avec les enfants. Et je me suis dit, moi qui me sens de cette famille, moi qui me sens d'église, et moi qui me sens, eh ben, je trouvais ça dégueulasse qu'on me juge comme ça. Et là, je me suis dit, là, c'est là que ça a commencé, et où je me suis dit, je crois que t'as plus rien à foutre là-dedans, quoi. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je veux quitter. Alors il m'a dit, plutôt que de précipitamment de dire que tu veux partir, j'ai pensé à quelque chose pour toi, je t'enverrai bien à Montréal, dans une de nos communautés, on avait une communauté à Montréal. Alors ils m'ont payé un vol, et vous savez pas ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont proposé, pendant ce séjour à Montréal, de suivre une thérapie pour me soigner de mon homosexualité. C'est horrible. Je leur ai dit, écoutez... je veux bien y aller, mais en moi-même, je me suis dit, c'est peine perdue, hein. Mais bon, écoutez, t'inquiète pas, Dieu peut tout. Si Dieu peut tout, écoutez, moi, je veux bien en guérir, parce que je vous le disais, j'ai toujours assumé mon homosexualité, mais en effet, comme j'en avais toujours souffert, ce que je vous racontais tout à l'heure, ça me rendait pas heureux, la vie. Je me suis dit, écoute, alors je vais laisser ce crédit-là à Dieu. Si Dieu fait de tels miracles, je vais aller suivre cette thérapie. Ils m'ont envoyé au nord du Québec, à Kakuna, suivre cette thérapie. Donc complètement interne, vous voyez, c'était même pas une thérapie faite par des laïcs ou quoi que ce soit, c'était fait par un système institutionnel qui est l'Église. C'était des sessions qui avaient lieu le matin par des chants déjà tellement horribles. Déjà, bon, vous savez, la liturgie catholique n'est pas très très belle. Hein, je préfère la liturgie orthodoxe, hein, mais bon, je suis catholique. Mais alors là, tous ces chants, j'étais tellement pris par les nerfs, tellement pris par que ça me faisait éclater le rire en fait. C'est donc j'étais obligé de sortir, j'étais obligé de, je suivais pas le mouvement quoi. Vous voyez, il faut le vivre pour voir comment c'était cucu. J'ai trouvé que c'était cucu. À tel point que le premier jour de cette thérapie, je me suis foutu de la gueule de tous ces gens qui faisaient ces pratiques-là, en leur disant « Écoutez, je veux rentrer à Montréal, parce que c'est complètement débile, ce que votre thérapie et tout ça. » Et la sœur m'a dit « Je ne te permets pas de dire que c'est débile, on a soigné des gens de l'homosexualité, on a soigné plein de choses, quoi. » Et c'est là que j'ai pris ma décision à Montréal de quitter les ordres. J'ai pris la décision de reprendre mon travail. Et alors, je commence à parcourir tous les jours un petit peu les rues autour du monastère. Un jour, je me présente dans la rue du Cardinal Lemoine, je cherche du travail. Et puis, j'arrive devant un cabaret. Et il y avait une annonce comme quoi ils cherchaient du personnel. Je me suis retrouvé serveur au Paradis Latin. Et je rentrais après chaque... Parce que, vous savez, quand j'ai quitté le monastère m'avait soit me donné une somme de 2000 euros pour me resituer un petit peu dans le monde, ou alors il m'avait dit « Giovanni, si tu veux, on continue de te loger le temps que tu retrouves du travail et que tu te retrouves un logement ». Moi, j'avais préféré choisir cette solution. Donc, j'ai continué à dormir pendant 6 mois au monastère. Donc, tous les soirs à 17h, au lieu de me rendre à la chapelle pour prier, je partais travailler au Paradis Latin où se préparaient les répétitions, tout ça, avec les danseuses, les seins nus et tout ça. Et après, à 1h30 du matin, je quittais le Paradis Latin. Je redescendais la rue du Cardinal Lemoine, je passais le pont Marie et je rouvrais les portes du monastère pour rentrer dans ma cellule. C'était très très drôle de passer comme ça de la vie monastique à la vie dans un cabaret. Ensuite, j'ai retrouvé toutes mes réalités, les réalités du monde. Et puis un jour, j'ai rencontré un garçon et je me suis marié. Ça a été un mariage extraordinaire. Et voilà. Aujourd'hui, je regrette que mon mariage n'ait bien sûr pas fonctionné. Mais je ne regrette pas mon divorce puisque malheureusement ça n'allait plus. Donc voilà, aujourd'hui, je suis de nouveau célibataire dans ce monde. Mais bon, bien entendu, j'ai beaucoup plus de retenue aujourd'hui. J'ai une sexualité qui est beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus. Je me suis apaisé. Et quelque part en moi, vous savez, il y aura toujours cette petite amertume de ne pas être devenu un prêtre. J'ai quand même fait 8 ans. J'ai fait 3 ans de séminaire, j'ai fait 5 ans de vie monastique. 8 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, c'est énorme. Oui, j'aurais voulu être un saint prêtre, mais voilà, aujourd'hui je suis heureux, et c'est tout.
C'était Histoire de prêtre homosexuel, un reportage de Thibaut Cavaillès réalisé par Marie Classet et diffusé pour la première fois le 8 septembre 2015 depuis l'enregistrement de cette émission. Sachez que Giovanni vit maintenant en couple avec Daniel, un Français d'origine portugaise très croyant. Quant à Jacques, hélas, nous avons appris son décès, survenu le 17 novembre 2017. À l'âge de 95 ans. À lire sur ce sujet, Sodoma, enquête au cœur du Vatican, aux éditions Robert Laffont, par Frédéric Martel, producteur de l'émission Soft Power sur France Culture. Merci à François Connac qui s'est occupé de cette émission et à l'association David et Jonathan. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire.